Et nous sommes de retour sur Radio Plus 104.3 pour justement vous faire vivre en direct ce salon du printemps, deuxième édition de ce salon du printemps sous le signe du hérisson et de la rose, Martine. Martine,
tout à fait.
Oui. Martine, que je vais aller rejoindre d'ici quelques instants sur différents stands.
Justement, puisqu'on parle fleurs, eh bien, je suis avec votre prénom, Jean Dubois. Jean Dubois, qui est horticulteur à Béthune et qui est donc spécialiste, bien sûr, dans l'agriculture biologique, sinon il n'aurait pas sa place ici. Et justement, j'ai repéré, Jean-Philippe, j'ai repéré du persil à planter chez soi, du persil bio. Jean, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous dire, vous êtes donc horticulteur bio à Béthune, c'est-à-dire, dites-nous exactement, donnez-nous votre adresse, on va dire.
Alors, on est bien caché au cœur de la ville, dans la rue de l'Université, à Béthune, entre les lycées Malraux et Saint-Dominique.
Voilà, rue de l'Université, un endroit que je connais particulièrement. Alors, c'est pas trop difficile de développer le bio en pépinière ou en agriculture? Ça n'est pas un petit peu à l'encontre des lobbyings?
Alors, certes, ça n'est pas encore dans l'air du temps. On en parle beaucoup, mais on agit peu. Nous, ça fait... c'est notre première année en labellisation bio. Par contre, ça fait 12 ans qu'on n'a pas traité. Donc, on est quand même un peu en avance, on va dire. On est rattrapé par le temps.
Elle est compliquée à obtenir, la labellisation bio ?
Pas du tout. En fait, suffit de... C'est dans la tête du producteur que ça se fait. Et une fois que dans la tête du producteur, c'est clair, ça se fait assez facilement.
Est-ce qu'il y a de plus en plus, justement, de personnes comme vous qui s'y mettent, qui, justement, passent au bio ?
Oui, oui, de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réticences et puis, enfin, on va pas se mentir, il y a beaucoup de lobbying de certains grands groupes qui n'ont aucun intérêt à ce que des gens se retournent à des pratiques naturelles.
En termes de quantité, justement, et de prix de vente, c'est ça?
Non, eux, leur intérêt, c'est qu'on continue à consommer leurs produits, si toxiques soient-ils. Ils sont très lucratifs quand même pour eux.
Et alors, donc, qu'est-ce que vous proposez comme produit exactement?
Alors ici, on a un petit échantillonnage de notre gamme de production. On produit donc des fleurs et du plant de légumes, donc des géraniums, des plantes à massif, du plant de salade à couper, des variétés de tomates anciennes, un peu de tout. Voilà, de quoi fleurir et de quoi se nourrir bien.
Donc évidemment, les gens comprennent toujours que des légumes sont meilleurs quand ils sont bio. Bon. Mais les fleurs, quelquefois, elles se disent, après tout, les fleurs, les phytosanitaires sur les fleurs n'ont pas beaucoup d'impact. Or, c'est faux. Il faut savoir, justement, oui. On était avec les gens qui fabriquent le miel. Il faut savoir que les phytosanitaires tuent les abeilles et donnent un miel qui n'est pas biologique.
Alors, oui, on va pas se mentir. Les produits phytosanitaires, ça fait beaucoup de dégâts. Si on consomme pas les fleurs, je rappelle que les jardiniers qui traitent leurs rosiers se traitent eux-mêmes et en ingèrent une bonne quantité avec des effets délétères sur leur organisme. Donc c'est quand même plus sage de se retenir de ce genre de pratique, c'est clair.
Alors je vois derrière vous qu'il y a une petite pancarte qui parle du court-circuit, le court-circuit.fr. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, on vend directement notre production sur notre site caché en ville, mais le fait d'être en ville, c'est aussi un atout pour ces nouvelles formes d'accès aux bons produits. Internet a des bons côtés, et justement, ça, par le biais de ce site qui s'appelle lecourtcircuit.fr, on peut commander les produits des agriculteurs locaux, alors qu'ils soient bio ou pas bio d'ailleurs, mais on peut trouver des produits laitiers, de la viande, des légumes bio, et on commande en ligne, on paye en ligne, et on vient retirer sa commande. De la même manière que dans un drive, on vient retirer sa commande chez nous, rue de l'Université.
C'est un petit peu le principe des AMAP.
Alors, c'est pas tout à fait le même principe que les AMAP, c'est un peu complémentaire. Dans les AMAP, on va prendre un abonnement à l'année et on récupérera un panier dont on n'a pas le contrôle, ce qui est un bel engagement citoyen, ce qui est un effort pour aider l'agriculture. Mais là, c'est plus en phase avec les gens qui ont un appétit de consommation qui est variable, qui peuvent partir en vacances, donc c'est plus ouvert.
Alors je vois aussi que, enfin, j'ai l'impression que sur votre stand, oui, voilà, vous faites un atelier rempotage pour les enfants.
Alors ça, c'est, ça fait partie aussi de notre ADN, c'est-à-dire que notre métier est tellement devenu rare que les gens nous posent plus de questions, enfin ils viennent plus pour nous poser des questions que pour acheter des végétaux. Et on, avec le fil, par le fil de ça, on en est arrivé à faire des ateliers, à accueillir des classes, et on fait beaucoup de pédagogie. Parce qu'il faut, enfin le jardinage, ça s'apprend. On a du mal à apprendre tout seul.
Et donc forcément, les enfants, alors. Comme vous intervenez beaucoup en classe, est-ce que les enfants sont étonnés par toutes ces pratiques, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent dans leurs réponses, par exemple?
Oui, clairement, il y a beaucoup, beaucoup. Enfin, la question rituelle qu'on pose quand on reçoit une classe à la serre, c'est d'où vient une graine? La graine, c'est quoi? Ça vient de où? La graine, ça vient d'un paquet de graines.
Oui, forcément.
Comme beaucoup de légumes viennent de boîtes, oui.
Voilà, ça, et le paquet de graines, ben, il vient du magasin, mais on s'est jamais posé la question de savoir d'où ça peut venir. Et notamment, une bonne part de notre, de nos ateliers pédagogiques sont de faire prendre conscience que le végétal, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un cycle, et que la graine, ben, quand, parce que les mêmes enfants, quand vous leur demandez ce qu'il y a au milieu d'une tomate ou ce qu'il y a au milieu d'une pomme, ils vous disent il y a des graines. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais fait la relation, ils n'ont jamais fait cette notion de cycle, leur a complètement échappé.
Et donc, d'où l'intérêt hein, de ces ateliers, forcément aussi pour vous. Ça veut dire que vous intervenez combien de fois dans l'année, à peu près, dans des classes?
Alors, c'est les classes qui viennent chez nous. On en reçoit entre 30 et 50 classes par an. Et puis, on fait aussi des ateliers ouverts aux adultes, donc avec les périodicités saisonnières, hein, sur les tailles, sur le carré potager, enfin, toutes les choses qu'on a envie d'apprendre, mais qu'on ne sait pas comment faire.
Alors, comment, alors, on va y aller dans la pratique, hein, directement. Comment bien rempoter?
Alors, comment bien rempoter, c'est très simple. Il faut un pot avec un trou au fond, parce que c'est important. Il faut un bon terreau. Et une graine ou une jeune plante à replanter, c'est pas plus compliqué que ça. On met la plante, on l'enterre pas, on respecte le collet de la plante, la partie où la tige et les racines se séparent. Donc c'est, et après c'est tout. Un bon arrosage après.
Ben voilà. Tu vois, moi j'ai appris quelque chose.
Ah, tout à
moi
fait.
Qui n'ai pas du tout la main verte. Moi j'ai les fers à souder dans la main, etc. Mais alors la main verte, non. Voilà. Et donc d'autres produits que vous proposez hormis ceux que vous vendez là sur le stand, sinon concrètement sur votre point de vente, il y a quoi?
Alors en ce moment, je sèche.
Il y a votre collègue qui va venir vous aider. Venez, venez, madame. Je vous laisse vous présenter.
Oui, bon, ben moi c'est Sonia, je suis l'horticultrice, l'épouse de Jean, et moi je suis spécialisée dans les légumes. Donc en ce moment, on a 13 variétés de tomates chez nous, et puis des courgettes, on fait des choux, un petit peu de tout, et après aussi les plantes ornementales.
13 variétés de tomates.
Oui.
Voilà, il y a quoi comme tomates? Donc c'est tomates cerises, tomates.
Oui, il y a plusieurs tomates cerises, de la Mirabelle blanche, la poire rouge, de la Black Cherry, et puis après en tomates, il y a de la tomate classique, rouge, et puis après les tomates de couleur, anciennes.
Justement, alors les tomates anciennes et tous ces légumes anciens aussi, ça, c'est compliqué à obtenir ça ou...
Non, 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 pas trop. Et puis l'avantage des tomates anciennes, c'est qu'on récolte soi-même les graines. Donc après, pour les ressemer, ça va beaucoup mieux.
Oui, parce qu'il n'y a pas cette dépendance aussi envers les fabricants de graines aussi. Hein. Ça, c'est aussi un autre sujet de débat, ça.
Oui, oui, oui.
Alors, je voudrais que vous rappeliez quand même à nos auditeurs que, bien sûr, il faut manger local, mais il faut aussi manger local, ça veut dire manger les fruits et les produits de saison. Ça aussi, c'est important. C'est important à la fois pour notre santé, c'est important pour notre environnement.
Ah, complètement. C'est vrai que si on s'adresse uniquement aux producteurs locaux, on ne sera pas tenté d'avoir des tomates toute l'année et on aura de bonnes choses. Si on peut résumer, bio et local, c'est idéal, hein, je pense.
Eh bien, merci à vous, en tous les cas, d'avoir expliqué tout cela. Alors, on va peut-être vous laisser donner vos coordonnées.
Alors, nous sommes situés à Béthune, rue d'Université, entre les lycées Malraux et Saint-Dominique. Téléphone 03 21 57 59 01. Il y a un site internet également, J. Dubois Horti. Oui, Jean Dubois Horticulteur, le site internet, pardon. Et vous pouvez aussi retrouver nos produits sur lecourtcircuit.fr.
Très bien, merci à tous les deux et puis bonne continuation.
Et bien sûr, vous vendez aux particuliers. Donc, les heures d'ouverture ?
Les horaires d'ouverture, alors du lundi au samedi de 9h30 à midi et de 14h à 19h. Le mercredi et dimanche, nous sommes fermés, oui, ouvert le mercredi de 11h à 13h uniquement.
Voilà, il n'y a plus qu'à.
Merci
à
beaucoup.
Vous. Merci.
Voilà, 15h11 sur Radio Plus et nous sommes toujours donc en train de faire... De faire le tour des stands. Alors il y a des ateliers pour les enfants hein, aussi, hein, on le signale, il y en a beaucoup des ateliers, un atelier remportage, on vient d'en parler, l'atelier sculpture sur légumes, un autre atelier ici, on viendra peut-être le voir tout à l'heure. Et alors là, de quoi s'agit-il?
Alors là, il y a des tas de petites boîtes, des jolies petites boîtes, des petites boucles d'oreilles. À mon avis, Jean-Philippe, je pense qu'on est dans sur un stand artisanat, n'est-ce pas? Du petit artisanat. Alors, je vous laisse vous présenter.
Alors, Madame Samier de Marconnel.
Evelyne Samier, voilà, de Marconnel. Alors, votre spécialité, je suppose que c'est une passion, là, pour faire des jolies choses comme ça. Votre spécialité,
ma première passion, c'est déjà en tant que sculpteur sur racines.
C'est vous qui faites les sculptures. D'accord.
Alors expliquez-nous un petit peu ça, la sculpture sur racines. Accompagnez-nous jusqu'à votre stand, qu'on comprenne bien ce dont il s'agit.
Alors donc là, vous voyez quelques pièces qui sont installées. Donc le but, c'est d'aller enfourer, de pas avoir peur de mettre les mains dans la terre, parce que voilà. Donc je récupère des racines, hein, toutes racines. Ça peut être du plus petit, ça va être le trouenne. Et ainsi de suite, sapin, chêne, toute racine, du moment que je peux la travailler. Donc la première des choses, il faut la laver, la nettoyer. Ensuite, elle trempe dans un bain pour enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir à l'intérieur, donc les araignées, les fourmis, tout ça. Elle est ventilée, elle est retrempée, ventilée, pendant un mois consécutif. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux attaquer mon travail. Donc si je vois que la racine est craquée, je n'y touche pas. Si je vois qu'elle reste bien ferme, là, je commence ma sculpture.
Alors, Evelyne, ce sont des racines, ce ne sont pas des souches.
Ce sont des souches d'arbres.
Ce sont des souches d'arbres.
Souches et racines. Ouais, et racines. Il peut y avoir les deux.
Tout à
hein.
fait.
Il y a des souches et des racines également. À savoir que je travaille à la meuleuse de 125, donc je n'ai pas d'outils de sculpteur. Je travaille devant public hein, à chaque fois que je fais des déplacements. Aujourd'hui, c'était prévu, mais bon, voilà, je me suis rattrapée un peu sur l'atelier enfant. Mais sinon, je fais toujours de la démonstration sur place pour montrer l'évolution de la pièce au fur et à mesure que je travaille. Des pièces peuvent mettre éventuellement un mois, voire deux mois de travail hein, sur une racine. Ça dépend l'envergure de la pièce, mais voilà, c'est...
Alors, la première chose, après le séchage et après le nettoyage, la première chose, c'est... La sculpture ou alors...
J'enlève encore un petit peu éventuellement la terre qu'il peut y avoir dans certains endroits où je peux pas passer l'appareil. Je gratte la terre, tout ça. Ensuite, je blanchis la racine à la meuleuse, bien entendu. C'est-à-dire que j'enlève toute l'écorce de la racine pour la blanchir. Et c'est à partir de ce moment-là que je vois la forme que je vais pouvoir travailler à l'intérieur.
Et vous ne travaillez uniquement à la meuleuse ou il y a d'autres outils que vous utilisez justement pour la finition?
Non, de toute façon, il y a le catalogue qui est devant vous. On peut regarder quelques photos. C'est du début jusqu'à la fin avec la meuleuse de 125. Il n'y a aucun autre outil que je prends pour travailler mes pièces.
D'accord. Donc, alors, pour expliquer aux auditeurs, aux auditrices qui ne sauraient pas ce dont il s'agit, la meuleuse 225, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est tout simplement un appareil classique que beaucoup de personnes ont, surtout les messieurs. Donc, avec un disque hein, pour poncer du bois, du fer, tout ce qu'on peut poncer.
Donc, un appareil quand même déjà assez grand, hein, il me semble. Hein. C'est pas de la mini meuleuse qu'on utilise.
Ça peut peser un bon kilo facilement. Donc le soir, je vous jure que je suis bien musclée d'un côté, quoi, au niveau du bras.
Donc voilà, et donc il faut pas vous déranger à ce moment-là.
Comment ?
Je dis, il ne faut pas vous déranger à ce moment-là.
Non, quand il faut travailler une journée complète, c'est vrai que le soir, j'aime bien me reposer.
Et alors, vos modèles, vous les choisissez en fonction de la racine ou de la souche, ou ça vous...
Bah justement, voilà l'appareil là derrière.
Bah voilà. Donc c'est une meuleuse, oui. Bah oui, c'est une meuleuse tout à fait classique.
Ça fait pas trop peur. Hein.
Voilà. Ça dépend dans les mannequins hein, en même temps, hein, Martine. Mais alors donc oui, voilà. Alors vous travaillez et vous arrivez à faire des formes aussi précises avec la meuleuse ou vous jouez un petit peu sur l'aspect original du bois.
Non, simplement qu'il faut affiner certaines parties. Hein. Il y a des branches qui sont beaucoup plus grosses par rapport à d'autres. Donc, quand il faut faire la finition telle que celle-ci que vous voyez, c'est sûr qu'il faut affiner beaucoup plus à la fin. Mais le point de départ reste dans sa forme normale. J'essaye de garder le plus possible la racine dans son état normal.
Sa forme initiale.
Voilà. Mmh. Donc, mon entreprise est donc le monde imaginaire des racines.
Alors, ça fait combien de temps? Alors, je vais passer derrière le stand. Ça fait combien de temps, justement, que vous faites ça?
Ça fait 10 ans, exactement. 10 ans que je travaille à la racine. Bon, j'ai beaucoup de demandes actuellement. Là, j'ai des demandes, surtout des chasseurs. Donc, on me demande des têtes de chevreuil, des hiboux à faire, des choses comme ça. Donc, il faut trouver vraiment la perle rare au niveau de la racine, parce que c'est franchement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est le cas de le dire, parce que je vais quand même dans les déchetteries, je vais chez les particuliers, je ramasse dans les bas-côtés, je suis constamment souvent fourré, je suis à l'affût de tout ce qui peut traîner. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je peux avoir une racine. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a ramené une remorque complète de racines, et sur une quarantaine de racines qu'il y avait, j'en ai pas travaillé une seule. Parce que ça ne correspondait pas à mon travail au niveau de la pièce que je souhaitais réaliser.
Alors, vous en faites quoi du reste ? Vous en faites quoi ?
Comment ?
Vous en avez fait quoi de ces
racines ? J'ai fait un très grand feu. Donc, je me suis dit, on va faire un barbecue, tant qu'on y est, pourquoi pas ?
C'est la saison, en plus, c'est bien. Voilà, donc.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est une très grande passion. Je suis toujours à la recherche de ça. Je fais également les bâtons de marche, mais j'en ai pas là actuellement. Donc les bâtons de marche, je les sculpte au niveau de la poignée. Je fais des chevaux, des chiens, tout ça, tout est sculpté. Je travaille également ça devant public. Mais là, j'en ai plus sur le salon.
Mais alors, Evelyne, vous m'avez dit que c'est une passion. Une passion, certes, mais avez-vous une formation de sculptrice ou...
C'est autodidacte.
Alors non, absolument pas. En fait, je suis devenue sculpteur par rapport à une pièce que j'ai trouvée, qui est d'ailleurs placée sur le stand, qui représente un poisson, et j'ai trouvé ça dans une rivière. Quand je l'ai ramassé, je l'ai laissé traîner un moment à la maison, et au bout d'un certain temps, je l'ai retrouvé. Donc je me suis mis à la nettoyer avec une brosse à dents, et je me suis aperçue que l'eau avait fait naturellement, elle avait sculpté le bois. Donc j'ai rajouté une bille pour faire l'œil du poisson et quelques temps après j'ai pris un morceau de bois classique hein, qu'on brûle dans le feu. Il y avait une extrémité de branche qui ressortait de ce bout de bois et j'ai pris cette fameuse meuleuse comme j'aurais pu prendre un autre appareil bien entendu et au fil du temps au moment que je me suis mise à travailler j'ai réduit cette branche et avec les va-et-vient de la meuleuse j'ai ressorti une rose. Tout simplement. J'ai sculpté une rose. Et j'ai donné un coup de meuleuse pour la tige, hein, 2 coups de meuleuse de chaque côté pour faire les feuilles. Et mon travail est devenu comme ça d'un coup. J'étais couturière et j'étais femme de ménage. Donc j'ai pas fait du tout de cours de sculpture. D'autant plus que la sculpture sur la racine, ça n'existe pas. Hein, on voit beaucoup de gens qui font des sculptures comme ça sur des blocs de sapin ou quoi que ce soit. Mais franchement, moi, j'ai pas fait de cours par rapport à ça. C'est vraiment naturel. Et je tiens à signaler également que j'avais un papa qui était très, 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 très créatif. Il faisait des meubles lui-même, malgré qu'il n'était pas du tout dans ce métier. Donc, je pense qu'il m'a donné ce don au niveau de mon travail.
Mais alors, Evelyne, oui, vous êtes gentille, mais quand vous me dites très simplement la rose, j'ai du mal à le croire quand même.
La rose, c'est vrai, c'est la rose. Et un jour, j'ai fait une brocante. Et j'ai installé cette pièce sur mon étalage. Et il y a un monsieur qui m'a dit, vous avez une pièce magnifique, c'est très beau. Et il ne savait pas que c'était moi qui l'avais fait. Et quand je lui ai expliqué, bon, ça m'a fait très plaisir. Et en plus, ça m'a fait quelque chose, ça m'a touchée. Et je me suis dit, allez, je me lance dans le bois. Donc j'ai commencé à travailler sur des morceaux de chevron, des petits morceaux de chevron de 20. Et avec ma meuleuse, j'ai commencé à tailler des oiseaux comme ça. Et après, au fil du temps, j'ai travaillé sur la trouenne. Donc, c'est une racine qui est beaucoup plus souple à travailler. Et ensuite, je suis passée vraiment de plus en plus gros au niveau de mes pièces, de mes racines. Donc, le chêne, le sapin, et ainsi de suite.
On peut dire que vous avez de l'or dans les mains.
J'en aurais, je serais peut-être pas là aujourd'hui.
Mais en tous les cas, c'est magnifique. Hein. Et donc, alors le bois de prédilection pour vous, c'est quoi?
Le sens du bois, en fait, ce que je préfère travailler. Ça n'a pas d'importance. Tous les bois. Le sapin est beaucoup plus souple de travail. Mais après, c'est le chêne. Le chêne, c'est clair que c'est beaucoup plus dur, plus compliqué. À savoir que comme je travaille à la meuleuse avec le disque, je passe énormément plus de temps à faire une sculpture parce que les mouvements sont toujours pareils. C'est toujours des mouvements de va-et-vient. Hein, un sculpteur, quand il a des couteaux, il enlève par grosse quantité. Mais moi, j'ai la meuleuse. Donc, ça peut être une heure, voire deux heures pour faire rien qu'un bout comme ça. Donc c'est toujours le même mouvement, il faut toujours... Et puis après, bon, bah, quand l'évolution commence à se faire, c'est là que je commence à me... encore être un petit peu plus énervée, quoi, c'est le cas de le dire, pour pouvoir réussir ma pièce que je souhaite réaliser.
Ça va. Vous...
Et j'ai pas fini, j'ai encore un deuxième travail, donc on va passer au stand de...
Ah bah oui, bien sûr,
alors,
avec plaisir.
Après, voilà. Evelyne, vous mettez un vernis dessus.
Alors, il y a bien sûr, il y a encore un produit pour l'entretien du bois, hein, à savoir qu'elle est quand même vidée au niveau de toutes les impuretés qu'il peut y avoir à l'intérieur, du fait qu'elle trempe dans un bain avec un produit dedans. Donc, toutes les impuretés redescendent à la base de la racine, c'est à ce moment-là qu'elle se vide. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je peux commencer à la travailler. Ensuite, il y a un produit qui est posé dessus, une teinte et un vernis que je mets si éventuellement on souhaite la mettre dehors ou à l'intérieur d'une maison. Hein, bien entendu, on peut mettre ça où on veut.
Parce que vos racines peuvent être mises à l'extérieur.
On peut poser à l'intérieur dans un jardin où on veut, à n'importe quel endroit. Ils sont protégés contre la pluie. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore terminées, hein, qui ne sont pas teintées ni vernies. Voilà. Mais sinon, on peut mettre ça où on veut. Il n'y a pas de souci.
Très bien. Oh, bah, on va passer à côté, alors.
Alors, du coup. Vous avez dit quand même que vous faisiez un atelier pour enfants.
Alors, il y a un atelier qui est fait justement pour les enfants, donc qui les apprend à travailler l'argile. Donc, ils font leur sculpture eux-mêmes. Avec leur imagination, parce que moi, mon but, c'est ça, c'est de voir les enfants travailler avec leurs idées et voir s'il y aura peut-être des futurs sculpteurs plus tard. Donc, ils font leur sculpture et ensuite, ils ont un petit cadeau que je leur remets en fin de travail pour pouvoir, qu'ils soient contents et satisfaits.
Qu'ils soient un peu récompensés de leur travail.
Voilà.
Un petit bon point.
Alors, et toutes ces boîtes ?
Alors,
j'en reviens à mes boîtes. C'est du bois toujours.
Alors c'est toujours du bois. Les deux matières que je travaille, c'est le bois et l'argile. Donc ici vous avez les boîtes à bijoux qui sont avec différents modèles, bien entendu. C'est peint, elles sont peintes à l'intérieur, à l'extérieur, voire sous les boîtes. Donc elles sont vraiment finies complètement. Et elles, par contre, sont rehaussées de sculptures d'argile. C'est-à-dire quand ma boîte est terminée, des modèles comme ça, tout est travaillé après sur mes boîtes et ensuite tout est peint en dernier travail. Donc soit que c'est peint directement ou alors il y a de la sculpture qui est réalisée dessus en surplus.
Et alors vous avez vos propres modèles ou alors vous répondez aussi à des commandes particulières ?
J'ai des personnes qui peuvent me demander des modèles que je n'ai pas forcément en stand. Donc, éventuellement, bon, je fais après, je leur fais après directement. Mais souvent, ils trouvent quand même leur bonheur quand ils viennent au stand. Ils arrivent à trouver un petit peu ce qu'ils souhaitent avoir. Donc, après, je fais selon mon inspiration. Je fais tous mes modèles sans modèle. Vraiment, ça sort vraiment naturellement. Et voilà. Donc, il n'y a pas une seule boîte qui est pareille. Hein, ils sont tous différentes. Et j'aime bien créer comme ça des choses différentes. Et je suis toujours en mouvement d'ailleurs, hein, de toute façon. Je n'arrête pas, j'élargis de plus en plus. Mais bon, voilà, c'est quand on a une passion. Alors là, c'est pareil, vous avez les porte-clés, donc en bois également. Toujours peint et rehaussé de sculptures également. Et ensuite, vous avez tous les bijoux qui sont sculptés et peints également, en argile, comme mon travail...
Alors, je crois qu'on peut dire à nos auditeurs, Jean-Philippe, de profiter. C'est bientôt la fête des mères.
Ah bah oui, complètement, oui, oui. Donc n'hésitez pas, venez aujourd'hui au salon du printemps à Saint-Angoël, à la Halle des Sports qui se situe dans l'impasse Sully. Voilà, je vous rappelle le prix de l'entrée, 2 euros, c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. On va donner vos coordonnées, Evelyne, vous qui êtes sculpteur donc sur Racine. Donc on peut éventuellement, pour toutes vos créations, vous joindre au 03 21 80 02 44, le 03 21 81 02 44. Et donc votre atelier se situe à Marconnel. Alors Marconnel, ça se trouve où exactement ?
À côté d'Edin.
Près d'Edin.
On est sur la route de Montreuil. Vous pouvez aller aussi sur le site Le Monde Imaginaire des Racines, Evelyne Samier, et vous aurez quelques photos de mes créations.
Merci beaucoup Evelyne, à très bientôt.
Merci également.
Il y a aussi de la très bonne andouille à Marconnel.
Ah, ok.
Alors justement Jean-Louis, Jean-Philippe.
Décidément, je vais changer de prénom.
Jean-Philippe, justement on parle de fête des mères, eh bien on se dirige vers le stand où se trouvent de très jolis tabliers.
Oui.
Voilà. L'atelier de Jeanne. Jeanne, c'est vous ? C'est votre prénom, Jeanne ?
C'est mon prénom.
C'est
oui.
Son prénom.
C'est mon prénom.
On a tout bon.
Voilà, vous savez tout maintenant.
Alors, dites-nous, parlez-nous de vos tabliers.
Alors, je fais des tabliers de cuisine, de jardinier. Je fais des tabliers personnalisés au cas où vous voulez un prénom ou un thème et tout ça. Et j'en fais également pour des associations, hein, des comités, des associations. Voilà, voilà. Je fais ça depuis que je suis en retraite.
Alors, c'est de la toile, du lin, de...
C'est du coton.
Du coton.
Je fais beaucoup de des tabliers doublés, vous voyez.
Très voilà. Joli, hein.
Reversible. J'en fais de simples, enfin, à tout thème.
Et je vois avec une certaine précision d'ailleurs, donc vous semblez être quand même bien équipé quoi pour réaliser ces tabliers.
Oui, j'ai mon petit atelier et d'ailleurs où je fais de la réparation et de la retouche et j'ai le matériel approprié, bien entendu.
Mais alors ces tissus, parce que vraiment les tissus sont superbes, ces tissus avec ces motifs, vous les avez...
Alors le tissu, si vous voulez, c'est le tissu qui m'inspire éventuellement pour pouvoir faire un tablier. C'est le tissu que j'achète, que je suis tentée et j'arrive toujours à faire des coordonnées.
Mais vous avez un fournisseur spécial parce que c'est quand même pas le tissu, c'est pas un tissu qu'on trouve
dans n'importe... Non, c'est le coup de cœur.
Oui, mais c'est pas un tissu qu'on trouve chez n'importe quel marchand de tissu.
Si.
C'est absolument superbe.
Ah ouais, j'en ai jamais vu comme ça.
Non, hein. Donc, moi non plus.
Bon,
hein.
Effectivement, ça change un petit peu des tabliers tout bêtes qu'on a en cuisine. Là, c'est chouette. On a même peur de le salir, dites donc.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, oui. Vous voyez, c'est tout établié. Pour moi, simple. Un tablier, c'est toujours quelque chose de très simple, mais qui joue l'utile et l'agréable.
Voilà, alors là, avec une décoration, on va dire, plutôt inspirée des années folles, hein, si je ne me trompe pas.
Et alors, dites-moi, il y a une poche à ces tabliers ?
Oui.
Parce que ce qui est important dans le tablier, oui, monsieur me regarde, c'est la poche. Parce qu'il y a toujours, Jean-Philippe, énormément de choses dans les poches d'un tablier.
Le tablier est fait pour ça, c'est un fourre-tout, un tablier.
C'est un fourre-tout, tout à fait.
Mais comme je ne pouvais pas, sur un reversible, comme je ne pouvais pas la mettre sur la belle face, donc j'ai mis la poche de l'autre côté. Et c'est un tablier, voyez-vous, qui se...
Donc madame est en train d'enfiler le tablier.
Hop. Voilà. Comment ?
Non, je décrivais à la radio, hein, puisque nous sommes en direct sur Radio Plus, donc j'expliquais, vous étiez en train donc de mettre ce tablier, voilà.
Si vous voulez, ça peut faire un cadeau, ça peut faire une décoration de cuisine, et ça peut servir en protection.
Alors, on va également regarder, hein, là on est en train, alors c'est dans un tout autre registre, là, le tablier qu'on a en face de nous, dans un registre beaucoup plus moderne, en fait, hein. Avec une allusion à Chanel.
Oui, c'est Coco Chanel. À la poche, c'est la photo de Coco Chanel.
Non, c'est absolument superbe. Bon, t'as envie de cuisiner rien que pour porter le tablier, Jean-Philippe.
Voilà, t'as tout compris. Voilà, et puis, ah oui, il y a d'autres... Voilà, on a encore d'autres choses. Donc là, avec des vieux films... de la Paramount, donc voilà. Ce sont vraiment des tissus. Alors, je vais reposer la question, parce que vous les trouvez où, ces tissus, quand même, parce qu'ils sont...
Je le trouve dans le commerce, tout simplement. Bon, j'ai une usine où je vais chercher mes tissus unis, mais tout le reste, c'est une inspiration quand je le vois.
Voilà, donc on va vous demander le nom de l'usine, quand même, hein, parce que... Martine.
Ah oui, moi ça, oui, tout à fait, parce que jamais, je vous promets que jamais je n'ai vu ce genre de tissu avec ces motifs aussi.
Voilà, et donc on a.
Les motifs sont vraiment, on dirait que c'est fait pour, n'est-ce pas, Jean-Philippe ?
Tout à fait, oui. On a même donc le tablier spécial sommelier.
Ah oui, non, c'est voilà. Magnifique. Vraiment.
Pour les amateurs de vin, voilà, qui veulent aussi. Avoir une certaine prestance.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Alors donc, si on souhaite justement obtenir vos produits, vos tabliers, comment fait-on ? Si on souhaite justement commander des tabliers chez vous, comment fait-on ?
Ah, vous l'avez sur mon site internet, ou alors vous venez directement à la maison. Hein. C'est une maison particulière, tout simplement. Hein.
Voilà, donc vous êtes situé à l'Aventy. Tiens, voilà, un petit coucou aussi aux parents de notre collègue Julien, ami collègue Julien. Donc voilà, à l'Aventy. Donc on peut vous contacter au 06 11 02 89 90, 06 11 02 89 90, ou au 03 21 26 21 40, 03 21 26 21 40. C'est donc l'atelier de Jeanne. Et il y a également une adresse mail, l'atelier de Jeanne@outlook.fr.
Voilà, à retenir donc pour taper dans Google à l'occasion, l'atelier de Jeanne.
Google ou tout autre moteur de recherche, Martine.
D'accord, Jean-Philippe.
Voilà.
Merci, merci à vous, vraiment, c'est superbe.
Merci à vous. Et très bonne continuation. Voilà, on va... Petite pause musicale, qu'est-ce que tu en dis ? Voilà, c'est parti. Et puis, on se retrouve après pour faire le reste des stands. On va aller un petit peu à l'extérieur, je pense, pour voir ce que cela donne au niveau des exposants qui se trouvent à l'extérieur. Donc, je vais aller faire un petit tour du côté...
Du côté de la volaille, peut-être, du coq.
Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça, oui, tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Et puis donc on se retrouve évidemment d'ici quelques minutes sur Radio Plus et on va repartir en musique tout de suite sur le 104.3 et juste avant eh bien on va peut-être vous rappeler quand même que le salon se clôturera ses portes à 18h, qu'il y a des activités pour les enfants à l'extérieur, hein, qui n'hésitent pas.
Tout à fait, pour les enfants à l'extérieur et à l'intérieur, car les enfants pourront apprendre à sculpter des fruits et légumes, mais vraiment là aussi ça vaut le coup d'œil. Il y a des choses superbes qui peuvent se faire avec un radis, avec un melon, avec une banane, avec tout simplement une pomme. Et puis, il y a atelier sculpture d'argile. Et vraiment, et puis tout simplement pour les enfants, c'est un salon aussi très éducatif. Alors, le monsieur l'apiculteur pourra vous montrer une ruche, leur décrire, leur dire comment ce qui se passe à l'intérieur d'une ruche. Oui, Jean-Jacques.
Ah, alors, Jean-Jacques Lotten.
Jean-Jacques Lotten, l'organisateur.
Monsieur le maire pour la cité 10.
Ah, voilà. Monsieur le maire est là. Donc, nous allons faire une petite interview de monsieur le maire. Tout de suite après ton morceau musical, nous reviendrons dans la commune de Saint pour justement parler de l'aménagement de la cité 10 qui est un problème, on va dire, pas une préoccupation, mais c'est quelque chose dont Saint-Angoël peut être fier.
Juste après le dépêchement.
Radio Plus encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus.
15h passées de 39 minutes sur Radio Plus et nous sommes toujours en direct du salon du printemps, du deuxième salon du printemps de Saint-Angoël, Martine.
Alors, nous sommes maintenant avec Monsieur le maire de Saint-Angoël, Monsieur le maire qu'on a eu l'occasion d'interviewer déjà ce matin, mais il nous fait le plaisir, n'est-ce pas Jean-Jacques, de revenir nous voir. Donc là, Monsieur le maire, on sait que la Saint-Angoël est une ville qui a été repérée par le ministère de l'Environnement. Bon, et justement, vous allez nous parler. Il y a à l'intérieur de la ville une cité pour laquelle vous êtes intarissable, cité que vous voulez remettre un petit peu, on va dire, pas au goût du jour, mais que vous voulez mettre en valeur. Il s'agit de la cité 10.
La cité 10, oui, on m'entend bien. Oui, donc c'est vrai que l'État a revu en 2015 la cartographie des quartiers dits en politique de la ville. Qu'est-ce qu'on appelle un quartier en politique de la ville ? Ben, c'est un quartier sur lequel on a identifié qu'il y avait des difficultés plus prégnantes qu'ailleurs. Donc nous, sur cette cité 10, donc le quartier ayant été vu en politique de la ville, on a signé le 2 juillet 2015 ce qu'on appelle un contrat de ville avec les services de l'État, avec un certain nombre d'autres accompagnants, donc les bailleurs sociaux, maisons et cités en l'occurrence, et puis toutes les personnes en capacité de faire avancer ce quartier en politique de la ville. Et c'est vrai que nous, on a ce quartier qui se trouve Cité 10, que chacun à Saint-Angoël et ailleurs connaît très bien, parce que c'est une ancienne cité minière, et c'est vrai que cette ancienne cité minière, elle a été laissée en déshérence, c'est pas péjoratif la terminologie que j'emploie, mais c'est vrai que on n'a pas eu un œil très prégnant sur cette cité. Donc notre ambition, avec le bailleur social bien sûr, qui s'appelle Maison et Cité, et puis tous les gens qui sont autour de nous pour nous accompagner, bien sûr les services de l'État, la commune, tous ceux qui peuvent aider, les associations, tous ceux qui peuvent nous accompagner, c'est d'essayer à cette cité de faire retrouver son lustre d'antan pour que ça redevienne un lieu de vie intéressant, un lieu de vie prégnant, où il y ait une mixité sociale, où il y ait une mixité intergénérationnelle, parce que c'est vrai que cette cité 10, vous le savez aussi bien que moi, souvent c'était des ayants droit des mines qui l'habitent encore maintenant, quoi, parce que les mineurs, ils sont disparus malheureusement par toutes les difficultés que vous savez, les silicoses et autres. Donc souvent, c'est des quartiers qui sont habités par des ayants droit, la seule dame qui est encore en vie, quoi. Donc nous, notre ambition, c'est cette cité 10, c'est d'essayer de trouver comment pour retrouver cette mixité. Donc là, on a pour ambition, avec l'accompagnement bien sûr des services de l'État, d'essayer de trouver une typologie différente pour cette cité 10. Notre ambition, c'est de faire une cité pour en faire un béguinage. Il y a quelques maisons qui sont en difficulté, qui sont murées, d'autres qui ont été brûlées, mais on a un foncier identifié sur lequel on pourrait faire un béguinage, ce qui permettrait aux ayants droit, aux veuves, d'acquérir un petit logement adapté à leur typologie actuelle, c'est-à-dire la dame et puis un ou deux personnes à côté d'elle, et d'essayer de trouver ce béguinage sur un lieu identifié. Ce lieu est bien identifié. On va se faire accompagner par les services de l'État, parce que vous savez que la cité 10, elle est classée en UNESCO, donc ce qui n'est pas évident du tout, parce que il faut essayer de franchir certaines difficultés. Et ben là, je peux vous dire que c'est en bonne voie, parce qu'on travaille avec la mission bassin minier, qui est justement la protectrice de ce sigle UNESCO, avec ACOM, l'association des communes minières présidée par Monsieur Cucheda, et bien sûr avec les services de l'État, avec Madame la sous-préfète actuelle, Madame Elodie De Giovanni, qui nous accompagne, et aussi bien sûr avec les Bâtiments de France, qui sont les garants de ce sigle UNESCO. Donc on a une réunion dans une quinzaine de jours pour voir comment on pourrait extraire un quartier, un foncier de ce classement, et d'en faire dans quelques temps une vitrine, un béguinage vitrine, bien sûr, en respectant toute la typologie et tout ce qui fait que ces cités minières, on y est attaché parce que c'est du logement individuel avec un petit pavillon, avec devant un petit jardin, derrière une petite pelouse ou vice versa, d'essayer de retrouver une mixité. Donc là, c'est notre ambition pour que cette cité 10, elle retrouve tout son lustre. Également, j'ai conforté déjà par une première mesure cette cité 10 parce qu'on a notre espace jeunesse qui se trouve là-bas. Donc l'espace jeunesse a été rénové complètement. Ça, c'était une première ambition. Donc là, je peux dire qu'on a été aidé par les financeurs que je citais tout à l'heure, dont la caisse d'allocation familiale qui nous a financé 50%. Donc l'espace jeunesse a retrouvé son lustre. Et également, il y a 57 logements qui sont en cours de construction par un bailleur social qui s'appelle Pas-de-Calais Habitat. Donc 57 logements, on a déjà attribué 9 logements, les premières clés sont livrées très rapidement. C'est pour vous dire que cette cité, elle va retrouver un dynamisme. Donc maintenant, le foncier sera là, les habitants seront là. Maintenant, il faut retrouver de la vie sociale. Et là, j'ai encore plein d'ambitions, mais je ne vais pas trop en dire. Sinon, je pourrais parler encore quelques temps sur le sujet.
Alors, justement, être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce que c'est toujours un cadeau?
Écoutez, c'est pas toujours un cadeau, mais d'un côté, c'est une reconnaissance de notre histoire, quoi. C'est vrai que quelque part, Jean-François Caron, il s'est battu complètement pour avoir ce classement UNESCO pour l'ensemble du bassin minier. Il a tout à fait bien agi et c'est vrai que quelque part, ça reconnaît ce classement reconnaît tout ce qu'a pu apporter le bassin minier pour Saint-Angoël et puis pour l'ensemble du bassin minier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce classement UNESCO, il fossilise l'ensemble du patrimoine. Monsieur, il dit que je parle trop fort. Donc voilà ce que je voulais en dire.
Alors, justement, monsieur le maire, je crois que dans cette cité, vous voulez aussi que viennent des artistes.
Oui, c'est vrai qu'on a bâti ça avec la communauté d'agglomération de Lanciévin. Donc, il y a un concours qui avait été lancé. Est-ce que vous pouvez accueillir dans votre commune deux artistes pour qu'ils s'imprègnent de vos populations et qu'ils essayent de propager leur art dans vos communes? Donc moi, j'ai relevé le défi avec la commune de Lens. Donc il y a deux artistes qui ont été identifiés par un concours. C'est des gens qui viennent de Paris, de la région parisienne, mais de Paris. Donc c'est des gens qui sont très au fait de l'environnement. Donc ces gens-là, ils vont nous accompagner pendant quelques mois. Donc ils seront soit à Saint, soit à Lens, travailler en osmose, en lien avec les associations, puis bien sûr avec l'ensemble de la population, pour dire comment vous appropriez votre territoire. Donc ils seront là pour nous aider un petit bout de terrain, comment l'aménager, qu'est-ce qu'on peut y mettre, est-ce qu'on en fait un potager, est-ce qu'on en fait un verger, est-ce qu'on en fait une pelouse. Bref, ils vont être là pour essayer d'acculturer de manière différente nos populations.
Tout à fait, donner leurs conseils.
Oui.
Eh bien, en tout cas, merci. Merci, monsieur le maire.
Oui.
Et puis, donc vous avez fait le tour du salon. Alors.
Ah oui, je suis très content. Je vois qu'il y a une diversité, une complémentarité des personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, toute la journée. C'est la deuxième édition. Maintenant, monsieur Lautern a décidé de le faire tous les deux ans pour pas ne rentrer en concurrence avec certains autres salons qui s'organisent.
Oui.
Je trouve que c'est très bien. On est là pour notre commune et on est là aussi pour le territoire. Donc moi, je suis très content de voir l'ensemble des prestataires qui ont répondu à notre appel, à l'appel de monsieur Lautern en particulier. Et puis je pense que c'est une belle réussite. Et puis on fera le bilan prochainement si vous voulez bien. Mais je pense que quelque part, ce sera un bilan très très positif. Et puis je remercie d'ores et déjà tous les gens qui sont ici autour de nous.
Et puis voilà, et bien justement, Saint-Angoël, on ne connaît pas toujours. Et bien ça a le mérite au moins de faire mieux connaître la ville. Et c'est vrai que pourquoi pas faire une petite visite de Saint-Angoël.
Merci beaucoup. Merci. Ça fait chaud au cœur de l'entendre. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous, monsieur le maire.
Voilà, merci monsieur le maire, merci Martine. On se retrouve d'ici quelques minutes à présent, après la pub, ce sera aux alentours de 16h. Voici Likely avec Follow Rivers.